Chapitre 51. La lune gibbeuse s'accrochait au ciel, éclaboussant les reliefs de craie et d'argile de ses reflets miel. En retrait, au-delà des entrepôts déserts, la surface plane des champs ondulait jusqu'au fil obscur de l'horizon. On se serait cru en pleine campagne, dans un endroit improbable et venteux du Cher ou du Berry, mais on était seulement à 10 kilomètres de Paris, au nord-ouest, piégé dans un méandre de la Seine. Les collègues de la BRI avaient remballé une demi-heure plus tôt. Le fourgon des pompes funèbres engloutissait le corps de Mélanie Mayer, direction le quai de la Râpée. Franck serra la main à Chénet sur le départ et vint rejoindre Lucie et Nicolas à 10 mètres l'un de l'autre, muets comme des carpes. Incapable de tenir en place, le capitaine de police enchaînait les clopes tandis que Lucie restait appuyée sur la carrosserie de leur voiture, bras croisés et visage de fer. Elle était transie d'un froid qui n'avait rien à voir avec la météo. Le sien était intérieur, tapissé de peur, de démons.
« Il y avait une 50aine de morsures, » expliqua Franck d'une voix lasse. « Vu... »
Il se massa les tempes, yeux fermés, comme s'il cherchait le fil de ses pensées.
Vu leur taille, leur forme, Chénet pense qu'au moins une dizaine de personnes l'ont mordu et ont bu son sang. Il prendra les mesures des plaies, fera toutes les analyses nécessaires pour nous établir le nombre exact de ces bêtes sauvages.
Nicolas balança sa cigarette contre la tôle du bâtiment. Au contact avec le métal, une myriade de cendres rougeoya.
Une vraie horde d'enfants de putain.
Charcot n'avait pas envie de livrer les détails, mais il s'y efforça. Ses propres mots lui donnèrent la nausée.
Mayer a été ensuite arrosé d'eau de Javel pour détruire l'ADN laissé par la salive. On ne retrouvera pas de traces biologiques des agresseurs.
Nicolas imaginait ces malades être alertés d'une façon ou d'une autre, rejoindre cet endroit avec discrétion, y entrer les uns derrière les autres pour croquer dans la chair d'un corps suspendu. Les artères et les veines percées, sang sur leur bouche, leur langue léchant leurs propres lèvres, comme pour récupérer le sucre d'une friandise. Puis, gorgés de sang, ils étaient repartis dans l'obscurité, ni vus ni connus, derrière leur chef de meute.
Ces salopards nous livrent une déclaration de guerre. Ce n'est pas pour rien qu'on se trouve proche de la DCPJ. Ils veulent nous montrer qu'ils n'ont pas peur, qu'ils ont un coup d'avance sur nous, qu'ici, dans l'obscurité et sous la surface, ils sont chez eux.
Nicolas courut après son mégot qui roulait sous l'effet du vent et l'écrasa tel un insecte. Plusieurs fois, violemment, comme si le bout de cendre allait reprendre vie. Épaule voûtée, presque résignée devant pareille violence, Franck s'approcha de Lucie. Il avait mal aux reins, aux articulations, à tout ce qu'il existait d'organique en lui. Il la serra contre elle, la tapota dans le dos.
« Ça va, toi ?»
Elle se laissa aller contre son torse réconfortant.
« Je suis épuisé, Franck. Je veux rentrer chez nous. »
Franck se tourna vers Nicolas.
« On va y aller. Il faut te redéposer. »
Le capitaine hocha la tête vers l'ancienne champignonnière. « Il y a encore Manien et Jacques là-dedans. J'attends que Jacques termine les constats. Je vais rentrer avec lui. »«
À demain, alors. »
Lucie se laissa choir sur le siège passager avec un mal de crâne qui pointait. Tandis que Franck s'engageait dans le véhicule, Nicolas vint écraser sa main sur la portière et l'empêcha de se refermer. « Juste 2 petites secondes. »«
Ça ne peut pas attendre demain. »
Nicolas se pencha vers l'intérieur. « J'en reviens à cette histoire de carte de visite. »«
Écoute, Nicolas, on... »«
Comme un lien à la sortie de la bouche de Mayer. » T'as dit que tu la lui avais donnée en garde à vue 2 ou 3 heures avant qu'on la libère. Mais pourquoi t'as fait une chose pareille, en fait? Tu te doutais bien qu'elle avait déjà ma carte, non?
Non. Je ne m'en doutais pas. Elle ne m'avait rien dit.
Mais moi, je te l'avais dit. On avait parlé de la sonnerie de téléphone. Je t'avais précisé que je lui avais donné ma carte au cas où elle se rappellerait.
Je m'en souviens pas. Et même si elle l'avait déjà, ta carte, c'est quoi le problème? T'as la priorité sur tout le monde?
Mais ne le prends pas comme ça. Ta carte, ma carte, on s'en fiche au final. Ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi tu as barré ton numéro professionnel et inscrit ton numéro personnel dessous. Charcot rejaillit de l'habitacle, tandis que Lucie restait figée à l'intérieur, le visage dans l'obscurité, ses mains tremblantes entre ses jambes.
« Je n'aime pas la façon dont tu me parles depuis quelque temps. »«
Je pose juste une question. »«
Bordel, tu l'as bien vue comme moi, cette gamine. » T'as bien remarqué dans quel état psychologique elle se trouvait. T'as jamais fait ça, toi, donner ton numéro perso à un indique, un témoin, un individu impliqué dans une enquête pour le rassurer et l'encourager à parler plus facilement?
Pas vraiment, non. Et je ne t'ai jamais vu le faire. D'ailleurs, ce n'est pas dans tes habitudes. T'es plutôt du genre à la protéger, ta vie perso.
On va dire que j'ai changé mes habitudes.
Dans tous les cas, on ne peut pas dire que ta méthode ait marché sur ce coup-là. Charcot sentit l'adrénaline monter et vit rouge. Il attrapa Nicolas par le col et le plaqua contre la voiture.
« Qu'est-ce que tu cherches ?
Je veux juste comprendre.
Et nous, tu crois qu'on est là pour attraper des papillons ? »
Lucie sortit. « Arrête, Franck, je t'en prie. » Mais Charcot n'entendait plus rien. Toute la tension accumulée des derniers jours explosait. Il crachait ses mots comme un serpent venimeux.
« Tu penses aussi qu'on laisse nos gosses dormir avec une étrangère pour le plaisir d'être ici, à racler la boue ?»«
C'est bon, Franck. Je voulais juste... » Le flic tira son collègue à lui, puis le repoussa loin de la voiture.
« Non, ce n'est pas bon. Tu crois que je vais te laisser balancer des saloperies et ne pas réagir ? On ne me dit pas ces choses-là, moi. » « Je t'ai sorti de la merde, espèce d'enfoiré, quand t'étais au fond du trou. Et c'est comme ça que tu me remercies, avec ce ton mielleux de mec qui suspecte quelque chose. Mais qu'est-ce que tu suspectes, hein? Tu pourrais me le dire? Quel salopard t'es devenu. Tu devrais arrêter de te foutre de la poudre plein le pif. Ça te réussit pas. »
Franck s'engouffra dans le véhicule, referma la portière, fit gronder le moteur. Lucie fixa Nicolas les lèvres pincées, puis monta à son tour. 10 secondes plus tard, la Clio disparaissait dans un crissement de pneus, plantant le capitaine de police en plein milieu de la route. Bélanger ne sentait plus ses membres et s'assit là dans l'obscurité, frappé en pleine face par la colère explosive de Charcot, sans apercevoir l'ombre portée sur la tôle, le long de l'entrepôt, à même pas 10 mètres. Manien n'alluma pas la cigarette qu'il comptait se griller. Sans un bruit, le chef de groupe s'éloigna et retourna dans la champignonnière.